Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45 sur RTL, Elisabeth Martichoux, vous recevez Nathalie Kosciusko-Morizet.
Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous qui avez la réputation dans votre parti d'être une bobo de droite, ça ne vous gênerait pas du tout que les électeurs de gauche viennent voter à la primaire, dans le fond au contraire?
La question, c'est pas ce que j'en pense, ou ce qu'en pense l'un ou l'autre d'ailleurs, parce que c'est pas aux candidats de donner leur permis de vote aux électeurs.
Vous dites ça pour Nicolas Sarkozy qui a jugé qu'il serait ces électeurs de gauche parjures et immoraux puisqu'ils vont signer, s'ils viennent, la charte des valeurs de
la droite. Oui, par exemple, je pense que c'est pas aux candidats de décider qui doit voter. La primaire, elle a des règles et surtout elle a un esprit. L'esprit de la primaire, c'est que sont invités à voter tous ceux qui veulent l'alternance. Voilà, c'est la primaire de l'alternance. Tous ceux qui veulent plus de François Hollande et veulent pas de Marine Le Pen, ils sont invités à voter à la primaire. Tous ceux qui, au premier ou au deuxième tour, pourront porter leur voix sur le candidat qui est issu de la primaire, sont invités à voter à la primaire.
C'est pas un dévoiement du principe de la primaire organisé par les partis pour désigner leurs représentants face, évidemment, aux autres partis.
C'est le contraire. C'est l'esprit même de la primaire. Si on avait voulu une primaire fermée, si c'était que les militants, les adhérents qui votent, on aurait dit primaire fermée. Là, c'est primaire ouverte. C'est primaire de l'alternance. Et j'ajoute une deuxième chose. Si on veut restreindre le vote pour la primaire et donc peut-être pour la présidentielle à ceux qui ont toujours voté à droite ou à ceux qui ont voté Nicolas Sarkozy en 2012, on ne pourra pas gagner. Pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy l'a perdu en 2012. En 2012, il y a 18 millions de Français, je crois, de mémoire, qui ont voté François Hollande. Il y en a beaucoup qui sont déçus aujourd'hui et qui ont envie de porter leur voix sur un autre candidat. Et on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour faire l'alternance. Sinon, on ne pourra pas gagner, tout simplement.
Nicolas Sarkozy, qui, par ailleurs, en 2007, avait fait l'ouverture. Donc, à ce moment-là, il avait bien ouvert la porte à des représentants des électeurs de gauche.
Oui, mais on a entendu Nicolas Sarkozy, en effet, plus rassembleur. Je me souviens de Nicolas Sarkozy convoquant Jaurès à la tribune, demandant aux enseignants de France de lire la lettre de Guy Môquet, qui était communiste, faisant l'ouverture dans son gouvernement. Et aujourd'hui, on voudrait nous vendre une espèce de droite chimiquement pure. Moi, je me méfie de ce qui est chimiquement pur.
Nicolas Sarkozy, qui est au sujet de Najat Vallaud-Belkacem, a lancé hier soir en tribune à Montauban « Elle nous fait honte ». Après que la ministre, vous avez à critiquer le pape, a parlé d'une parole légère du pape sur la théorie du genre à l'éducation nationale. Elle nous fait honte, les mots sont forts. Est-ce que c'est un propos de tribune sans conséquence ou un excès de langage ?
Écoutez, moi, j'aurais pas utilisé ces mots-là. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'elle fait pas du bien à l'éducation nationale. Et d'une certaine manière, c'est plus grave. Enfin, c'est plutôt ça le problème. Vous voyez ? On s'enferme dans des débats, des polémiques, des petites phrases en politique, tellement il y a un fait majeur. Là, on est au mois d'octobre, c'est la première rentrée pour laquelle la réforme du collège est mise en œuvre, et cette réforme du collège est une catastrophe.
Elle nous fait pas du bien, dites-vous, Najat
à l'éducation nationale. Nous, on sent. Enfin, je veux dire, la question, c'est pas nous. Le sujet, c'est qu'elle est ministre de l'Éducation. Quel est son bilan comme ministre de l'Éducation ? Eh bien, sa réforme phare, en quelque sorte, c'est la réforme du collège. Et non, c'est pas une bonne chose.
Et c'est pas une facilité de se faire applaudir en meeting, en donnant le nom de Najat Vallaud-Belkacem, comme autrefois on donnait le nom de Christiane Taubira quand elle était ministre.
Si, mais je pense en plus que les Français en ce moment sont très attentifs à ce qui se passe dans la politique. Ils écoutent beaucoup les contenus, ils écoutent beaucoup ce qu'on dit, et ils ont envie qu'on dépasse les propos de tribune.
À propos de ce qui se passe et de ligne, vous, c'est votre adversaire dans le fond, sur la ligne, c'est plutôt Alain Juppé que Nicolas Sarkozy. C'est de lui dont vous êtes le plus proche.
Mais moi, j'ai pas d'adversaire dans cette tribune, dans cette primaire. J'ai un objectif qui est de partager avec les Français une vision d'une société en pleine transformation, la société française, une nouvelle société qui est en train d'émerger.
Ce que je veux dire, c'est pourquoi les électeurs...
Je ne vous laissais pas aller jusqu'aux propositions, c'est dommage.
On va y aller, mais d'abord, justement, pourquoi les électeurs vous choisiraient-vous plutôt que Alain Juppé ? C'est ça ma question.
Je porte deux choses qui ne sont pas présentes par ailleurs dans la primaire. D'abord, des thématiques qui sont présentes dans la société, qui sont celles de la vie, qui sont celles d'un monde en pleine transformation, et les Français vivent dedans. Et la politique, tous les politiques sont largement à côté. La transformation numérique du monde du travail, l'éducation dans le temps d'aujourd'hui, tous ces sujets-là qui sont ceux de notre quotidien, en fait, et dont la politique qui s'enferme dans des débats sur, alors vous avez la déchéance de nationalité, le droit du sang, le burkini, les Gaulois, ne parle pas. Et puis il y a une autre chose, c'est que c'est peut-être une différence de tempérament, mais moi je suis ingénieur, j'aime bien les choses qui marchent.
Vous dites tout le temps, je suis ingénieur maintenant. Ouais. Enfin, pourquoi vous trouvez que c'est porteur de rappeler que vous êtes ingénieur ?
Non, je pense que ça fonde en fait une différence d'approche qu'on voit de manière très visible, à mon avis, dans la primaire en ce moment. En tout cas, moi je le vis comme ça. J'en ai assez des débats de principe, des débats, des polémiques presque philosophiques dans lesquelles on essaye de nous enfermer. Ça fait un an que je trouve que la France a besoin d'autre chose que ce que lui sert la politique. Ça m'est apparu de manière tellement évidente.
C'est très macronien comme démarche, d'ailleurs.
Bah, sauf que moi, j'ai un bilan d'une part et je fais des propositions d'autre part. Mais ça m'est apparu de manière tellement évidente au moment du débat sur la déchéance de nationalité. Moi, je m'étais élevée contre lui tout de suite. Et encore cet été, avec le débat sur le burkini. Vous voyez, sur cette question-là, par exemple, moi, je propose qu'on aille à la racine du mal. Qu'on travaille sur la mise hors la loi des prédicateurs salafistes.
Vous parlez de la lutte contre la radicalisation, oui, de la société française.
Qu'on mette un coup d'arrêt à l'extension de cette idéologie, dont une récente étude de l'Institut Montaigne nous disait qu'elle touche quand même 28% des Français musulmans. Plutôt que de s'enferrer dans des débats sans fin du type « est-ce qu'on va faire une loi ou pas sur le burkini ?» Burkini, c'est un symptôme du mal. Si vous faites une loi sur un symptôme, trois mois après, ils inventeront une nouvelle provocation, il y aura un nouveau symptôme.
Alors, votre lutte contre le salafisme, c'est vrai, vous voulez l'interdire, c'est dans votre programme. Vous le représentez à nouveau, votre programme, sous forme de 12 points tout à l'heure. Il y en a un sur lequel vous n'êtes pas encore beaucoup arrêté, c'est l'impôt. Tout le monde doit payer l'impôt sur le revenu, c'est ce que vous dites aux Français.
Oui. Aujourd'hui, en fait, on a moins de la moitié des Français qui payent l'impôt sur le revenu, et je pense que c'est un problème. Je pense que on a à la fois un système qui est très complexe sur la fiscalité comme sur le reste, mais on a un système qui est très complexe. Ça crée beaucoup de frustration dans la société. Chacun pense que l'autre profite plus que lui. Ça crée beaucoup de jalousie. Chacun pense qu'il paye plus qu'il ne reçoit. Chacun pense en quelque sorte qu'il se fait avoir. Donc il faut le simplifier. Et en même temps,
tellement
lui donner du sens.
Vous voulez tellement simplifier, vous voulez une flat tax.
Oui, je veux ce qu'on appelle une flat tax, un revenu de base.
Non, on explique ce que c'est que la flat tax.
Et le paiement de l'impôt, ça va tous les trois ensemble, en fait. Ouais. Une flat tax, un revenu de base, et le paiement de l'impôt sur le revenu, dès le premier euro, et pour tout le monde. Et si vous additionnez tout ça, ça ne change pas fondamentalement les situations des uns et des autres, mais en revanche, ça fait un système beaucoup plus lisible, et un système dans lequel il n'y a pas d'effet de seuil.
Alors, on va essayer de le lire, justement,
parce que pour l'instant,
auditeurs ne comprennent pas. La flat tax, c'est un impôt pour tout le monde, avec un taux unique, en tout cas, c'est ce que vous préconisez, de 20%. C'est-à-dire que, on gagne 1 000 euros ou 10 000 euros, on est imposé sur le revenu à 20%.
C'est un taux unique.
C'est très injuste pour les petits revenus.
Non, parce que vous ajoutez à ça le revenu de base, qui est une fusion et une simplification d'un certain nombre d'allocations. Et en fait, quand vous regardez ce que ça donne sur les petits revenus, la flat tax plus le revenu de base, ça ne modifie pas les choses, sauf que,
le revenu de base,
sauf que ça enlève les effets de seuil.
Mais bien sûr, mais votre revenu de base, pardon, c'est une agglomération, une simplification des allocations sociales. Vous y ajoutez un revenu propre.
C'est une simplification et en fait, pour certaines personnes, ça fait un
revenu
supplémentaire.
Qu'est-ce que vous mettez dans le revenu de base ? Qu'est-ce que vous mettez ?
Vous mettez tout sauf l'ASPA et
Le RSA,
oui,
l'APL.
Vous mettez tout sauf l'allocation adulte handicapé et l'allocation supplémentaire pour les personnes âgées.
Donc vous mettez toutes les allocations, y compris les APL, et c'est 470 euros pour les petits revenus.
Les APL, c'est un sujet un petit peu différent à réformer par ailleurs.
Donc vous ne savez pas encore si vous mettez les APL.
Il y a un problème de réforme par ailleurs. En fait, si vous voulez, moi la réforme que je propose, elle est à la fois, elle met de la lisibilité dans un système qui est devenu tellement compliqué que la société française, elle se défait de ça, de la jalousie, de la frustration. Chacun pense qu'il se fait avoir. C'est frappant aujourd'hui. C'est pas qu'il y en a qui gagnent et d'autres qui perdent. Chacun pense qu'il est perdant. Et ça, mais c'est terrible pour la cohésion nationale. Donc je remets beaucoup de simplicité. Et quand vous regardez dans le détail, en fait, ça ne change pas fondamentalement les situations personnelles. J'ajoute par ailleurs que, contrairement à tous les autres candidats à la primaire, moi je maintiens un ISF. Et ça garantit une forme de progressivité malgré tout dans les hauts revenus.
Vous ne voulez pas avoir l'impression de faire un cadeau aux riches en le supprimant ?
Contrairement
à vos adversaires.
Je pense que la droite a souvent promis la suppression de l'ISF, elle a rarement fait. Et pour des raisons fortes qui sont que c'est un impôt qui est très symbolique. Que le risque, du coup, si on veut supprimer l'ISF, c'est finalement de ne faire que ça, alors qu'il y a bien d'autres urgences en matière de réforme fiscale. Celle que je pointe pour une fiscalité plus juste. parce que c'est une fiscalité plus juste que je propose.
Plus simple et pas encore très lisible, puisque c'est pas encore, on ne sait pas encore si vous mettez les APL, on ne sait pas encore quel type d'allocation.
Si. Vous mettez tout, sauf l'allocation adulte handicapé et l'ASPA, et sur les APL, c'est un sujet un petit peu différent. Aujourd'hui, tout le monde ne touche pas les APL.
Et ce sera à 470 euros. Vous êtes à 3% dans un dernier sondage.
Bah vous auriez pu prendre l'autre, j'étais à 5.
Et là, vous êtes à 3, c'est le dernier en date, c'est pour ça. Harris Interactive pour France Télévisions.
Bah, attendez le suivant, alors
ça va être compliqué en deux mots d'émerger de ce duel installé Sarko-Juppé.
Vous savez, regardez la primaire de 2011. Les sondages, ils se sont tous trompés. Pas tellement les sondages de deuxième tour, parce que ça marque un rapport de force. Et ils se sont trompés pour une raison qui est qu'on ne sait pas qui va aller voter encore. Et les Français eux-mêmes ne savent pas s'ils vont aller voter. Regardez, il y a un débat aujourd'hui, même sur qui peut voter. On voudrait décider de qui va voter, qui peut voter. Donc laissez se faire la campagne.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
La COP21 s'applique dans 30 jours, annonce officielle du secrétaire général de l'ONU. Est-ce que c'est une bonne nouvelle et est-ce qu'on le doit à François Hollande?
C'est une bonne nouvelle et je trouve que la COP21 est une des réussites diplomatiques du quinquennat, même si c'est pas François Hollande, en fait c'est Laurent Fabius en l'occurrence. Maintenant le problème c'est que c'est pas suivi par une politique nationale en matière de lutte contre le changement climatique, parce que dans la loi de transition énergétique, à part des objectifs à 2050, il n'y a rien.
Merci de ce commentaire et de cette appréciation. Nathalie Kosciusko-Morizet, votre entretien avec Elisabeth Martichoux est à retrouver sur le site rtl.fr.